recevoir et de parler de votre travail passionné de musique.
Bon,
Carole, vous êtes la directrice artistique du chœur.
Oui, la directrice
musicale, la chef. On vous voit faire de grands gestes d'oiseau, pour reprendre l'expression dans une autre chanson. Ça existe depuis quand? Rappelez-moi le contexte qui a vu la naissance de ce chœur.
Le chœur a 17 ans. Ce sont des
gens du
personnel du cégep qui ont eu
l'idée de
mettre
chez nouveau, là.
En place un chœur.
Nouveau, là. Quoi?
Il
va y avoir des jardins.
Un professeur, Hélène Côté-Cardinal, Reine Miette, qui est maintenant célèbre, Marie-Josée.
Il faut qu'elle fasse le trou dans le cours avec son calice de bajou.
Il y a 17 ans, Marie-Josée était ici, à Québec, au conservatoire. Et je vais diriger le chœur dans la région. Et Hélène est venue me voir pour me demander comment on faisait pour partir une chorale. Et si Marie-Josée pouvait faire ce genre de travail. Et puis, j'avais dit oui. Là, c'était juste une approbation libre comme ça, pas plus d'engagement. Et ça a commencé la session de septembre avec Marie-Josée. Mais Marie-Josée, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, voulait chanter et pas nécessairement diriger des chorales. Mais j'avais travaillé souvent avec elle. J'avais un groupe qui s'appelait Amoroso, un groupe de voix de femmes. Et Marie-Josée en faisait partie de temps en temps avec d'autres chanteuses. Et puis, elle me connaissait. Elle m'a téléphoné et elle m'a dit « Est-ce que tu veux reprendre le chœur du cégep? »
Donc nous sommes en 1997.
Oui, et puis donc en janvier, j'ai repris la direction. C'est un beau cadeau. On m'a fait un cadeau, en fait. Quand j'ai commencé à diriger des chœurs, j'étais à Québec, dans Saint-Jean-Baptiste. Et puis, j'ai déménagé en 89 à Lévis. Mais j'ai continué quand même à diriger à Saint-Jean-Baptiste, où le chœur, la chorale multiethnique aussi, plusieurs chœurs. Et puis, toujours des cadeaux. C'était pas un plan de carrière, c'est toujours des cadeaux que j'ai eus. C'est ça. À Lévis, j'étais sur place. Ça s'est fait naturellement. Et puis, depuis 17 ans, on vit une belle aventure.
Et ça, je pense que c'est un projet que nous retrouvons quand même dans un
15 avril, c'est bien 380.
Mais le défi, c'est de durer, hein. De renouveler, parce que ça fait
raison. Ça fait
personnel, autant du personnel de l'administration, du personnel de soutien,
des
des semaines de lecture où ils s'en vont, et une série d'examens qui tombent exactement dans le temps du concert. Alors, de temps en temps, on a la chance d'avoir des jeunes. Souvent, on invite les gagnants de Cégep en spectacle à venir faire des prestations. On a eu des élèves aussi qui sont venus chanter, que j'ai présentés au conservatoire, qui sont en carrière maintenant, aujourd'hui, ou qu'on a encouragés tout simplement en les invitant pour chanter avec nous, pour faire des solos, et qui maintenant sont en Allemagne.
Le chœur est composé de combien de membres?
Ça aussi, entre 50 et 60.
Oui, c'est bien.
C'est un beau cœur.
C'est un beau cœur.
Oui.
Et la proportion d'hommes-femmes là-dedans?
Ah.
Il y a beaucoup de femmes.
Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de sopranos. Et puis, souvent, comme dans beaucoup de chorales, les ténors, c'est rare. Alors, cette année...
Et les barytons?
Le baryton, ça va. C'est stable.
Okay.
Non, c'est plus stable. Mais il y a des années où on a eu un très beau pupitre de ténors. Ça dépend des années. Là, on a une très beau pupitre en qualité, mais pas en quantité. Okay. Et puis souvent, les gens, ils ont des voyages à faire. Et cette année, il y a un voyage organisé par la REC qui nous prive de 3 ténors d'un coup. On a fait quand même un beau travail. À ce moment-là, on essaie d'aménager les arrangements pour que les hommes aient souvent des parties communes, barytons et ténors.
Si nous regardons à vol d'oiseau, c'est presque 20 ans. Est-ce qu'on peut voir, pas nécessairement une évolution, une progression, mais des étapes, soit dans les objectifs, soit dans le répertoire, Comment vous voyez vos 17 dernières années, justement?
Oui, il y a eu vraiment, au début, je pense qu'il y avait 12 personnes au début, et puis on pratiquait toujours a cappella. Et puis notre spécialité, par exemple, ça c'est constant depuis le début, c'est un panorama varié. On peut chanter des choses classiques, se permettre de porter des grandes œuvres, de les aborder le mieux possible, et puis d'aller jusqu'au gospel, jusqu'au chansonnier, jusqu'à des choses plus contemporaines aussi.
Est-ce que vous avez quelques chansons? Est-ce qu'elles sont toujours exclusivement françaises ou il y a quelques chansons?
On chante en italien, en allemand, en russe,
en
espagnol.
Et vous sembliez suggérer que vous avez maintenant une section rythmique, entre autres pour les spectacles comme ça. Un pianiste?
On a maintenant, depuis plusieurs années, je dirais les 5 premières années ou peut-être un petit peu plus, on avait un musicien juste pour quand on présentait notre concert. Après ça, le chœur a grossi, nos moyens se sont augmentés aussi. Alors, on a pu avoir un pianiste toujours avec nous à toutes les répétitions. Après ça, on a eu plus de monde formé, donc des pupitres. On travaille maintenant par pupitre. On se sépare pour préparer les voix.
Mais au spectacle, ce pianiste est accompagné d'un contrebassiste et d'un batteur? Ou...
Ben, ça dépend des années, mais cette année, puis ça dépend des occasions, là, mais cette année, on a Grégoire Pinchot au violon, on a Jacques Picard à la contrebasse, Pierre Ross à la batterie, Jean-Michel Borja à la guitare et Anna Spirina, qui est notre pianiste régulière.
Oui. Oui, ben c'est bien ça. Et cette année, le répertoire, donc on disait, j'annonçais Sylvain, il n'y a pas juste du Sylvain Lelièvre. Quels sont les autres auteurs abordés dans le spectacle qui s'en vient vendredi prochain?
Vous parliez tout à l'heure de durer et de renouveler l'inspiration.
Ouais.
On essaie vraiment, ça c'est... des fois c'est un peu angoissant pour moi parce que de toujours se renouveler, de trouver des arrangements qui sont beaux, qui nous conviennent, un mélange qui n'est pas trop indigeste aussi de pièces. Mais cette année, c'est vraiment une belle surprise parce que ce sont des gens du cœur qui ont eu cet élan d'aller vers Sylvain et ça nous a comme renouveler notre enthousiasme.
Galvanisé.
Oui,
c'est motivant, je pense, et stimulant.
Oui,
même
là,
quand ça
nous
représente en apparence certaines difficultés, d'aller vers du nouveau.
Oui, c'est ça. Alors, on commence, c'est quand même très éclaté, la première partie, on commence avec Carmina Burana, on commence avec Carla.
Oh là!
Ben oui, on le fait pas toutes, là, par exemple, mais on fait trois extraits. Oui, 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 c'est un beau début.
C'est une de mes pièces classiques préférées.
Ça casse la glace.
Le rythme, la progression.
Oui, puis la dimension.
La dimension.
On se retrouve au Moyen-Âge, presque, avec une poésie qui date, et puis une époque aussi, Karl Orff, à Hambourg, 1937, on s'imagine le décor de la montée nazie, et puis c'est vraiment bon. Après on va dans des mélanges aussi avec des arrangements sur la canante Pachelbel, qui date aussi, qui accompagne Amazing Grace.
Wow.
Oui.
C'est audacieux. Quelle belle fusion.
Ouais.
On va arrêter là de façon à faire écouter à nos auditeurs, à nos auditrices, un exemple de ce que vous pouvez faire avec une chanson très classique de la chanson française, Le temps du midi.
Oui, est-ce que je peux la présenter?
Oui, bien sûr, vous êtes là pour ça.
C'est enregistré avec les moyens du bord, c'est un spectacle, il n'y a pas de compression ou de mixage, là, c'est pur, là. Mais c'est aussi parce qu'Anna Spirina, qui est notre accompagnatrice, et Le temps du muguet, c'est une chanson russe, hein, Les nuits de Moscou.
Oui.
Et puis, on avait la chance de pouvoir avoir quelqu'un qui nous amenait la couleur du langage. Alors, il y a un mélange. Anna le chante, on le chante en russe, en français. On s'est fait plaisir comme ça.
rappelle que je m'entretiens avec Carole Légaré et Denise Roy concernant le prochain spectacle du chœur du Cégep de Lévis-Lauzon qui aura lieu la semaine prochaine, vendredi le 9, au Cégep de Lévis-Lauzon. Ce que nous entendions, c'est un exemple de ce que le chœur fait. Et maintenant, on va parler avec Denise, qui est membre de la chorale et qui, comme bien d'autres, connaissait relativement l'œuvre de Sylvain Lelièvre, mais qui la découvre et qui, de façon très passionnée, a écouté plus d'œuvres, a compulsé un tas de livres de lui ou écrits sur lui. Alors, Denise, c'est bien ça? Qu'est-ce qui se passe avec Sylvain, là?
Ah! Je l'avais longtemps écouté dans mon auto, alors il me suivait comme ça.
Mais
quand je me déplaçais.
C'est souvent les mêmes, hein, au début. C'est ça. C'est pour un artiste, nous écoutons souvent un noyau, quoi, de 8-9 chansons, puis ouf, ça s'arrête là.
Et puis, disons que ces chansons-là, peut-être qu'elles dataient des années 90, mais étant donné que je me préparais pour chanter le 9 mai, je me suis mis à lire tout ce qu'on avait pu écrire sur lui, même à me procurer les disques, entre autres les chansons retrouvées. Et c'est là que, bon, je savais qu'il était décédé à 59 ans, mm-hmm. mais je n'avais jamais pris connaissance de sa production dans ses jeunes années.
Ça, ce sont les chansons avant qu'il ait fait...
Comme dans les années 60.
Oui, avant qu'il ait fait un premier album qui nous amène à 72. Donc, ça couvre presque 10 ans, là.
C'est 63, ça.
72, oui.
Alors, moi, je suis partie comme ça à la découverte de Sylvain Lelièvre. Tout d'abord, en lisant Le Troisième Orchestre.
C'est peut-être la meilleure introduction.
Que j'avais acheté, ça faisait déjà quelques années, puis je me disais, un jour, je le lirai quand j'aurai le temps. Mais là, je l'ai pris le temps. Mm-hmm. Puis... à travers le héros, Benoît, là, j'avais l'impression que c'était Sylvain Lelièvre que je découvrais, parce que ça se pouvait pas que l'auteur ait écrit tout ce que vivait Benoît sans en avoir vécu au moins une partie. Je sais que les auteurs se défendent toujours d'écrire leur vie dans ce qu'ils imaginent, mais on sait bien qu'on puise à l'intérieur de soi, là. Et puis... ben c'est ça. Alors, de fil en aiguille, moi, je suis partie comme ça, on va dire, à la découverte de Sylvain Lelièvre, où j'avais des pistes. Hein. Le roman me donnait des pistes. Alors, je suis allée sur Internet, c'est merveilleux, Internet, parce que ça nous permet de retourner dans le temps sans beaucoup d'efforts. Donc, Eddie Dotchin, hein, qui avait vraiment frappé l'imagination de Sylvain lorsqu'il était tout jeune, 13 ans. D'ailleurs, dans une préface que vous avez écrite dans Le Chanteur libre, vous écrivez bien que le début de sa carrière, on pourrait le situer à cet endroit-là. Puis, en écoutant Eddie Dotchin, parce que lui, il disait dans le roman que c'était comme un dieu romantique, et puis le jeune personnage, après, s'en allait à son piano puis essayait de reproduire ce qu'il avait entendu, qu'il passionnait tant. Là, je me disais, Sylvain Lelièvre, il avait vraiment trouvé la personne qu'il allait être plus tard. C'est vraiment ça.
Exactement. Oui.
Puis, je trouvais ça tellement beau, là. Puis, quand j'écoute maintenant Versant Jazz, c'est vraiment Sylvain Lelièvre qui devait être passionné par Eddie Dotchin.
C'est l'aboutissement de ça dans des chansons vraiment, comme Le Joueur de piano.
C'est ça. Oui. C'est ça, et je trouve ça extraordinaire parce qu'on retrouve même la sonorité, la façon d'organiser les accords, en tout cas. Donc, vous voyez, hein, quand j'ai lu le roman, là, j'étais vraiment dans son univers et je trouvais ça extraordinaire, même que j'ai retrouvé Le Sous-marin jaune parce qu'en lisant un autre volume, « Toi l'ami », qui est un recueil de témoignages, c'est ça. C'est là que j'ai vu que Sylvain Lelièvre avait aussi son sous-marin jaune où il descendait régulièrement pour faire ses compositions, sans déranger les gens. Alors, il rentrait dans son univers de création. Donc, j'ai vraiment parcouru son œuvre avec vraiment beaucoup de plaisir. Puis, comme je m'étais procuré Le Chanteur libre, bien là, j'avais la chance...
Des textes de toutes les chansons,
les textes,
même avec des inédits, oui.
Oui, puis en plus, j'appréciais que pour certaines chansons, qu'il y ait aussi, des explications sur ce qui avait donné naissance aux chansons.
Oui, oui, oui.
Alors ça aussi, c'était un enrichissement, si on veut. Puis j'avais découvert la préface qui était faite par son frère, donc par vous-même, n'est-ce pas, qui explique tout le parcours de Sylvain Lelièvre, et c'est super intéressant. Est-ce que je peux parler encore?
Oui, oui allez. Mais moi,
il y avait les influences littéraires que je voulais juste mentionner, parce bien que sûr. C'est sûr qu'en lisant les chansons que je lis comme des poèmes, puis vous avez dit que comme influence littéraire, bon, il y avait nos chansonniers québécois, Félix Leclerc, d'ailleurs, lui-même dit que c'est la découverte de la poésie, c'est à travers les chansons de Félix Leclerc, à travers Pieds nus dans l'aube, c'est ça, à travers Pieds nus dans l'aube, qu'il a découvert la poésie de Félix Leclerc, mais après, c'était Gilles Vigneault, bon, puis des chanteurs français, Claude Nougaro, Brassens. Mm-hmm. Et là, ce que vous écrivez, hein, c'est qu'à travers Brassens, c'était vraiment la qualité de l'écriture poétique, donc la qualité des vers. Puis à travers Brel, c'était le côté théâtral des chansons. Mm-hmm. Puis ce que vous concluez dans ce paragraphe-là, ça dit, c'est à travers ces deux personnages-là, Brassens et Brel, que Sylvain Lelièvre découvrait que c'était la condition humaine qu'on retrouvait dans les chansons.
Tout à fait, oui.
Puis c'est ça qu'on retrouve. Moi, quand on chante, qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves, là? N'importe quelle personne réagit à cette chanson-là parce qu'il vient nous rejoindre vraiment au plus profond de nous-mêmes. On se fait nos petits examens de conscience. Des fois, ça accroche dans la gorge parce qu'on dit « Ah, je suis peut-être pas... » peut-être pas à l'aise avec ce que je rêvais et ce que je deviens. Bon, donc, c'est vraiment une écriture qui est vraiment très riche, un univers très riche.
Donc, vous répondez à la dernière question que j'aurais eue. Qu'est-ce que vous avez compris de mieux? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et peut-être une petite dernière question, et on écoutera une dernière chanson de Sylvain. Carole, qu'est-ce que nous retrouvons parmi ces 8 chansons-là? Est-ce qu'on a précisément les amours anciennes? Je pense que Denise me l'avait nommé.
Oui, oui. On a
la chanson
amours
du bord de l'eau.
Oui, mais les arrangements sont différents. J'étais surprise d'entendre le résultat du travail sur les amours anciennes qui sonne comme une chanson. Tu sais, Belle qui tient ma vie, tu sais, ces grands classiques chorales.
Ah, tout à fait.
C'est surprenant. Puis, ben, dans les chansons, il y a la chanson du bord de l'eau qui nous inspire aussi. Mais les couleurs, les harmonies sont tellement particulières. Ça porte tout le monde. Les gens, il y a des gens qui nous disent oh, quand je les chante, j'ai envie de pleurer tellement ça me touche. Et moi, quand on chante Toi l'ami, à la fin, cette espèce de marche ensemble à 50 personnes, c'est très émouvant.
Donc, nous rappelons les coordonnées. Le jour, c'est la semaine prochaine, vendredi le 9. Le lieu, c'est au cégep Lévis-Lauzon. Et puis, comment se procurer les billets, par exemple?
Alors, on peut se les procurer à la porte même du cégep.
Ça risque d'être trop tard, non?
Ou bien, oui. Alors, ou bien téléphoner au numéro 418. 837-6504.
On le répète?
837-6504. Puis il y a aussi à l'Anglicane à Lévis où on vend des billets.
Super. Alors, Denise Auroi,
merci
Carole
beaucoup.
Légaré.
Merci.
Merci,
c'est un
beaucoup.
Plaisir.
Au plaisir, moi aussi.
Le temps s'est fait plus doux. Allons à la rivière. Dans l'eau, de l'eau dans la rivière, et ta main dans la mienne. Comme change la rive et reste le ruisseau, toujours pareil à toi, tu n'es jamais la même. Chaque jour, pourtant, je t'épouse à nouveau. Et chaque jour, pourtant, c'est toujours toi que j'aime. Il y a des poissons dans l'eau dans la rivière. perte de bas. Nous n'aurons plus le temps de compter les semaines. Nous irons jusqu'au bout des rives de nos corps. Nous irons jusqu'au bout de nos amours humains. Dans l'eau, de l'eau dans la rivière, et ta main dans la mienne.
Ça, c'est quoi ça? C'est toi qui as pris ça?
Ben,
ça,
c'est toi qui as
pris. Mais ça, tu peux pas le faire avec ça. Tu travailles pas, toi, avec ça.
Ben, ok, de bon.
Ça, ici, ça, c'est quoi ça?
Ferme-toi, là. Ferme.
Mais non, j'ai pas la faire fermer. T'es un peu là. Regarde. Ça, ici. C'est bloqué, je suppose. Ici. Bon.